enrichi un peu le thème par donc autour de ce mot que je ne connaissais pas jusqu'à notre année, là, ensemble, l'aniconisme, le fait qu'il n'y a pas d'image. Aniconisme. Ce n'est pas forcément dans tous les dictionnaires, hein, ce mot, mais il existe. Donc il y a eu la conférence du rabbin Nathan Alfred qui a présenté le dossier biblique. Alors, malheureusement, je n'étais pas présent pour l'écouter, mais je l'ai écouté sur le site. Donc j'ai à peu près recueilli ce qu'il avait dit. Puis ensuite, l'architecte Jacques Ergotte a illustré un aspect de la visibilité de l'invisible dans les églises, maison du peuple de Dieu. Puis le mois dernier, Gérard Manant nous a initié au mystère du visage à travers Lévinas, ce visage qui est inimaginable au sens littéral du mot, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en image, en quelque sorte. Alors, peut-être imprudemment, en juin dernier, quand un programme a été écrit sur un papier, eh bien, je vais annoncer ce titre hein, que vous avez sous les yeux, « Des images pour dire Dieu, l'audace des prophètes ». Alors, je me suis plongé peu à peu dans ce questionnement en lisant d'abord à peu près l'ensemble des livres des prophètes derniers, puisque dans la Bible hébraïque, on distingue les prophètes premiers qui sont en fait les livres historiques, Josué, Juge, Samuel, 1 et 2 rois, ça c'est les prophètes premiers, c'est des récits historiques. Puis les prophètes derniers, c'est ceux que couramment on appelle le prophète, Isaïe, Jérémie, etc. Donc, rien que ces prophètes derniers, ça fait à peu près un tiers de la Bible hébraïque. Donc, il y a de quoi lire. Et puis, en plongeant dans cet océan, on veut dire, eh bien, j'ai tâché de me rendre attentif à deux points. D'une part, voir comment les prophètes se réfèrent, si c'est le cas, à cet interdit de toute représentation de Dieu et des créatures que l'on trouve dans la législation, dont je reparlerai un petit peu après. Puis d'autre part, comment, paradoxalement, essayer de voir comment ils ont quand même utilisé nombre d'images pour dire quelque chose de Dieu, de ce Dieu qui les envoie et qui inspire leurs paroles. Donc c'est un petit peu ces deux pistes que j'ai cherché à explorer. Alors, je pense que tout le monde a une feuille qui a été distribuée. Donc j'ai mis deux, trois livres que j'ai consultés en plus de mes recherches personnelles. Celui qui a été le plus significatif pour moi, c'est le premier, Thomas Römer, l'invention de Dieu. Voilà, un livre comme ça. Il y en a un deuxième, c'est surtout le titre qui m'a attiré, mais en fait, ça ne traite pas directement le sujet en question. La trace d'un visage, Bruno Chenu, mais comme je connais bien l'auteur qui est malheureusement maintenant décédé, je vais regarder quand même ce qu'il nous dit. Il y a eu un chapitre sur l'aniconisme, enfin, comme ça. Et puis, je vous redirai, puis il y a aussi un livre que j'avais dans ma bibliothèque, mais qui est en allemand, le Dieu unique et les dieux. À propos d'Israël, un peu quelle est l'histoire du Dieu unique au milieu des dieux. Je vais en dire aussi quelque chose. Voilà. Et puis, un article de dictionnaire aussi. Puis, il y aurait bien d'autres livres à mentionner, mais voilà, ça, c'est déjà pas mal. Alors, conformément plutôt aux préceptes bibliques, je vais vous montrer le moins d'images possible, mais comme ça fait partie un peu maintenant du genre, il faut quand même avoir quelques images sous les yeux, donc il y en aura, mais pas trop, parce qu'on ne doit pas montrer d'images. Voilà. Et puis, encore comme préliminaire, peut-être qu'il faut aussi avoir en tête qu'il y a un peu deux problématiques qui ne sont pas toujours faciles à distinguer. La Bible, surtout dans sa version grecque, elle va appeler idolâtrie aussi bien le culte adressé à ce qu'on pourrait appeler, nous, des faux dieux, que le culte du Dieu d'Israël, qui est un petit peu mélangé avec des pratiques pas très orthodoxes, on va dire. Donc, parfois, ce n'est pas trop facile à distinguer. Si bien que même, je me suis demandé souvent si quand les prophètes parlent des idoles, puisque c'est vraiment leur sujet, est-ce qu'ils parlent aussi parfois aussi de la façon dont les croyants à qui ils s'adressent traitent Dieu comme une idole, c'est-à-dire le représentent en fait, d'une certaine manière, quoi. Donc c'est pas toujours simple à distinguer. Voilà, le plan de ce que je vais vous dire, c'est là. Voilà, il y a ces 4 points, puis quelques conclusions. Donc le premier point que je voudrais dire, c'est reparcourir rapidement ce questionnement autour de l'interdiction des images. Est-ce que c'est pas l'aboutissement de toute une évolution, alors que dans nos Bibles, la législation sur l'interdiction des images se trouve dans la Torah et présentée comme étant une législation donnée par Dieu à Moïse au désert, voilà. Donc, mais ça, c'est aussi peut-être une vue, une manière de voir les choses. Et on peut les voir peut-être autrement. Alors, je vous ai mis sur la feuille que je vous ai distribué, je ne vais pas toutes les répéter, la législation sur les textes de la Torah qui légifèrent sur cette interdiction des images. Alors, il y a 6 textes qu'on peut alléguer là-dessus, j'en ai mis 4, voilà. Donc, le premier, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi, tu ne feras aucune idole, aucune image. Alors j'ai mis aussi en parenthèse quelques mots hébreux, parce qu'on les retrouve aussi chez les prophètes. De ce qui est là-haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux, par-dessous la terre. Donc aucune image d'être vivant, voilà. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Et puis, un corollaire de cette interdiction des images, c'est ne pas prononcer en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Voilà, et puis, donc, il y aurait une autre référence que je n'ai pas mise sur la feuille, Lévitique 19.4, ça concerne aussi l'interdiction des idoles. Et puis 26.1, Lévitique, vous ne ferez pas d'idole, vous ne dresserez chez vous ni statue, ni stèle, vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres sculptées pour vous prosterner devant elles. Je suis le Seigneur Dieu. Alors là, par exemple, dans ce verset-là, les idoles en question, les statues, les pierres sculptées, on voit que c'est quelque chose d'assez fréquent, y compris dans la foi orthodoxe. Hein. Donc là, tout d'un coup, on voit qu'on ne peut plus le faire. Deutéronome 4, j'ai cité aussi sur la feuille, il y a un raisonnement au début, hein, prenez bien garde à vous-même, vous n'avez vu aucune forme, temuna. Vous voyez, c'est le mot qu'on trouve déjà, vous ne ferez aucune image. Hein, voilà. Vous n'avez vu aucune forme, le jour où le Seigneur vous a parlé à l'Horeb du milieu du feu. Et n'allez pas vous corrompre en fabriquant une idole. Vous voyez, ici, là, on prend comme base le fait qu'à l'Horeb, Dieu ne s'est pas montré visiblement. Et puis il y a d'autres formes d'idolâtrie, c'est lever les yeux vers le ciel, adorer le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. C'est tout un autre aspect d'idolâtrie. Il y a aussi un autre texte que je n'ai pas cité, c'est Deutéronome 5, 7 à 10. Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc d'autre Dieu au pluriel que moi, tu ne feras aucune idole, donc c'est toujours la même chose. Et puis Deutéronome 16, ça complète un petit peu l'interdiction, tu ne planteras pas de poteau sacré. Alors le mot est important, Asherah, parce qu'il y a une petite discussion sur ce qui est cette Achéra, de quelque bois que ce soit, à côté de l'autel du Seigneur ton Dieu. Donc là, il y a une interdiction qui laisse entendre que ça existait. Parce que quand on interdit, en général, on fait des lois, c'est pour faire face à un problème. Ce n'est pas une interdiction comme ça, en l'air. Voilà. Et tu ne dresseras pas de stèle. Voilà, donc, voilà, vous avez l'état des lieux de la législation. Alors, c'est de savoir si cette législation, qui est vraiment explicite, précise, est-ce qu'elle est ancienne, comme le suggère donc, le contexte littéraire dans lequel elle nous est transmise. Et par contre, si elle est récente, ce qui est un peu la vie assez générale, quand même, dans les études actuelles, eh bien, ça veut dire que c'est la suite de toute une prise de conscience qui a pris du temps hein, pour découvrir justement, être bien au clair les dieux, qui est Dieu, les idoles, enfin tout ça. Alors dans ce livre que je vous cite là, Thomas Römer, c'est un professeur allemand, mais qui a aussi la particularité d'enseigner au Collège de France. Vous pouvez même en direct suivre ses cours. Il y a un site où on peut suivre les cours du Collège de France, celui-là puis bien d'autres. Donc il enseigne la Bible au Collège de France, qui est aussi un peu une nouveauté. Ce n'était pas forcément gagné d'avance que la Bible est placée dans ce temple du Collège de France. Bien, donc on le remercie pour avoir mis le pied dans cette institution. Mais là, il a des positions assez tranchées qui ne font pas forcément l'unanimité. Mais je vous les donne quand même. Voilà. Donc, selon lui, par exemple, il a cette hypothèse qui peut être choquante, hein, que la Bible garde mémoire d'un temps où le Seigneur d'Israël, Dieu, n'était pas le seul Dieu vénéré par Israël. Et que c'est seulement au temps de l'exil, en gros, qu'on a pris conscience qu'il y avait un seul Dieu unique, créateur, invisible, transcendant, mais qui est aussi en alliance de salut avec un peuple. Donc on est passé à un moment donné, aussi une évolution enfin de ce qu'on pourrait appeler la monolâtrie, c'est-à-dire qu'on admet qu'il y a plusieurs dieux, mais on en vénère en priorité un. Ça c'est la monolâtrie. Et puis après, l'étape suivante, c'est le monothéisme, c'est-à-dire il y a un seul dieu, le reste n'existe pas. Et c'est une évolution qu'on sent peut-être bien aussi dans la Bible. Et je pense que les prophètes, justement, ont été ceux qui ont vraiment permis à Israël, à sa tradition, de clarifier tout ça et d'être de plus en plus bien clair sur qui est Dieu et qui ne l'est pas. Alors, concernant justement le nom même de Dieu, le tétragramme qui est dans la Bible, il y a la plus ancienne attestation qu'on en a, c'est à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, enfin, une des anciennes attestations, c'est une inscription qui est retrouvée, non pas en Israël directement, mais dans le désert du Sinaï, à Kuntilet. Donc des fouilles qui ont eu lieu là-bas, et on a retrouvé une inscription où il y a le nom de Dieu. Et puis, par ailleurs, on a aussi retrouvé dans un temple de la Haute-Égypte, c'est-à-dire même presque au Soudan, hein, une inscription où il y a le nom de Dieu, le nom non pas avec le tétragramme, mais trois lettres seulement, Yod, et Vav. Et même dans des écritures spéciales, hein, où il semblerait que le mot... La racine du mot, c'est quelque chose autour du souffle. Le souffle, voilà. Et c'est intéressant de noter ça. Surtout dans une civilisation du désert. Alors, l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que fait aussi donc Thomas Römer, et puis ce livre en allemand que j'ai là aussi, qui cite d'ailleurs Römer aussi, que au fond que que le Dieu d'Israël, qui est désigné par le tétragramme, est arrivé, s'est implanté, on dirait, en arrivant par le sud, par l'Égypte, enfin oui, dans toute cette zone qui touche à l'Égypte, des confins de l'Égypte, voilà, et qui, peu à peu, s'est acclimaté dans le contexte cananéen, c'est-à-dire une culture des nomades du désert, qui peu à peu rencontre une culture d'agriculteurs sédentaires. Voilà, donc, et qui rencontre justement ce contexte cananéen, où il y a notamment deux grandes figures de divinité. Une qui est plus dans la région du royaume du Nord, et qui est le dieu Baal, cananéen, et puis dieu de l'orage, celui qui fait gronder le tonnerre, comme dit le psaume 29. Et puis dans le sud, il y a une note plus royale, c'est le dieu El, qui est lui connu dans tout le Proche-Orient. El, c'est presque un nom commun pour toutes sortes de dieux, mais qui est souvent représenté comme dieu solaire. Voilà. Alors, je vais montrer des photos dans un instant. On peut dire que le bain dans lequel s'est développée la révélation biblique, donc au départ, c'est une sorte de polythéisme très prégnant qui abondait en représentation des dieux et de leurs symboles. Donc, par exemple, pour Baal, c'était le taureau, le veau, même, si on veut, ou bien aussi avec l'éclair, hein, le foudre, on disait, je vous montre une photo, et puis le soleil pour elle. Alors, voilà une des représentations de Baal qu'on a retrouvé, je reviendrai là-dessus, dans un site qui s'appelle Ougarit. Voilà, donc il est beau, vous voyez, il est très vigoureux, et puis dans sa main, normalement, il a quelque chose qui représenterait l'orage, la foudre, les éclairs. Par contre, voilà, c'est une autre représentation de ce même Baal. Et puis, voilà, elle, le dieu elle, qui est souvent sur un trône, plus placide, vous voyez, plus royal aussi, hein, voilà. Alors, voilà, ce contexte de polythéisme, plus ou moins, qui ne faisait pas forcément scandale, ça scandalisait peu à peu les prophètes, et Thomas Römer pense même faire l'hypothèse, alors ça c'est vraiment, là je vous le donne vraiment comme une hypothèse, que dans le temple de Jérusalem, avant sa ruine en 582, et avant qu'on le reconstruise, eh bien il y avait une statue, peut-être de type stèle, Matseba, hein, et qui expliquerait par exemple le désir qu'on voit dans les psaumes souvent de voir la face du Seigneur, voir la face, hein, revoir ta face Seigneur. Alors autrement dit, accéder à sa statue, venir au temple, voir cette statue de Dieu. Et puis même dans le psaume 17, par exemple, où Dieu est représenté avec un corps, il a des yeux, une face, des oreilles, une main, et puis il y a ce dernier verset, « Je verrai ta face, je me rassasirai de ton image. » Et puis l'image, c'est ce fameux « Temuna », une image, une forme. Voilà, ou bien le psaume 63, verset 23, « Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. » Bon, alors, tous ces versets-là qu'on lit un peu d'une manière très spirituelle, on pourrait éventuellement faire une lecture beaucoup plus, dans un premier temps, plus basique, si on peut dire. En tout cas, c'est vrai que peu à peu, probablement qu'on a donné des substituts à cette statue, enfin, c'est ce que dit Römer, hein. Alors, il y a ce mot de la gloire, par exemple, dans les visions des prophètes, peut-être les chandeliers, finalement le rouleau de la Torah au final, mais voilà, mais cette idée qu'il y avait quelque chose un peu représentatif dans le temple. Et puis même, Römer, il va plus loin encore, il dit que dans le temple, avant la réforme de Josias, dont je vais parler tout de suite, eh bien, il y avait à la côté de la statue du Seigneur une représentation de la déesse Ashéra, qui était donc le versant féminin, on peut dire, qu'on connaît par exemple dans les textes d'Ougarit, dont je vous parlerai aussi, qui était l'épouse du dieu El, plus ou moins dans les mythologies de l'Orient. Et justement, dans cette inscription de Kuntilet, dont je vous ai parlé, où il y a le nom de Dieu qui apparaît, le nom, le tétragramme, eh bien, il est question de ce Dieu avec son Ashéra. Alors, comment Römer il dit, ça veut dire Dieu et cette divinité féminine. Et puis, mais par contre, je t'en parle dans le texte de l'encyclopédie que je vous ai. La référence que je vous donne à Dictionnaire encyclopédique, ils disent, voilà, ils disent que c'est pas du tout vrai, que ça veut dire le Dieu et son lieu saint, un lieu. Bon, donc il y a un débat là-dessus, voilà. En tout cas, justement, la réforme de Josias, qui est racontée dans le deuxième livre des Rois, chapitre 23, verset 4 et suivante. Donc ce roi Josias, c'est à peu près vers 620 par là, va faire une réforme, peut-être sur la base du Deutéronome justement, et il va mettre de l'ordre dans le temple. Alors je vais vous lire ce qu'il fait. Le roi donna l'ordre à Helcias, le grand prêtre, au prêtre, au gardien du temple, de faire sortir du temple du Seigneur. Donc il s'agit bien du temple de Jérusalem. Tous les objets qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra, voilà, Ashéra, pour toute l'armée des cieux, il les fit brûler en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et on emporta leurs cendres. Bon. Ensuite, le poteau sacré, justement c'est de nouveau Ashéra, on le transporta de la maison du Seigneur au ravin du Cédron, le brûla, on le réduisit en poussière, on jeta la poussière dans la fosse. Voilà. Donc vous voyez, voilà. Il démolit les lieux où on pratiquait la prostitution sacrée aussi. Dans la maison du Seigneur, il y avait quelques chambres spéciales. Voilà. Et là où les femmes tissaient des tissus pour habiller Ashéra. Voilà ce que dit cette réforme. Ce coup de balai qu'a donné Josias. Alors, ce sera surtout, je pense, dans les prophètes, alors peut-être encore plus spécialement Isaïe, et puis un disciple d'Isaïe, qui va vraiment affirmer avec netteté à la fois l'unicité de Dieu et l'inanité des idoles. Les idoles ne sont rien. Et puis, donc aussi, probablement de leur représentation, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le monothéisme. Et l'éviction, le fait que Ashéra, cette fameuse Ashéra, n'est plus visible dans le temple, peut aussi expliquer, ou je ne sais pas, faire en sorte que ce versant féminin de la divinité va peut-être se retrouver chez les prophètes d'une autre manière. Par exemple, quand Isaïe dit « Est-ce qu'une femme oublie son enfant ?»« Ben moi, c'est le Seigneur, je n'oublierai jamais Israël. Enfin, » voilà, une chose comme ça. Et puis, certainement, le dernier point, c'est que ce qui a favorisé, je dirais un peu donné le coup de grâce pour peut-être aller vers l'interdiction des images, c'est l'expérience de l'exil, où à Babylone, alors là-bas c'était le déploiement grandiose des idoles, des méga-idoles, dont Marduk notamment. Il y avait cette grande procession annuelle où on sortait une statue énorme de Marduk, voilà, dans la ville, qu'on la promenait dans la ville en procession. Donc voilà, les exilés étaient confrontés à cette réalité-là. Et du coup, puis donc ça donnait l'impression d'un Dieu très puissant. Qu'est-ce que le Dieu d'Israël à côté? qui est, voilà, alors qu'il y a eu l'exil. Donc c'est Ézéchiel qui va dire, va montrer que la catastrophe de la ruine de Jérusalem, de l'exil, elle n'est pas due à la faiblesse du Dieu d'Israël face aux divinités babyloniennes qui seraient bien plus puissantes, mais il va dire que c'est Dieu qui s'est servi des Babyloniens pour sanctionner son peuple, pour lui faire réfléchir, quoi. Voilà, donc il a retourné un peu la chose. Donc, finalement, toute cette interdiction de représenter une image, toute image de Dieu, elle est liée certainement à, suppose, une attractivité forte des dieux nombreux, dûment représentés. On peut dire qu'Israël était entouré, et puis peut-être même sur son sol, de toute cette pratique où il fallait avoir des représentations de Dieu, même donner un nom à Dieu. Pourquoi c'est finalement on aboutit à dire qu'il ne faut pas nommer Dieu, parce que si on le nomme, ça veut dire qu'on l'inscrit parmi les autres dieux. Ben, il y a Marduk, il y a Baal, et puis il y a Dieu d'Israël. Donc, alors que les autres dieux, il n'y a qu'un nom, il n'a pas de nom, si on peut dire, parce qu'il est tout seul. Il n'y a pas besoin de le nommer. Voilà, alors, il faut que j'en vienne, parce que l'heure passe. Hein. Isaïe, deuxième... vous voyez mon plan à me rappeler. Voilà. Isaïe, les idoles ne sont rien, mais qui est Dieu ? Bon, alors là, Isaïe, finalement, quand vous allez le lire, c'est vraiment une sorte de répétition très nombreuse et très poétique et très belle sur contre les idoles, quoi. Ça, c'est vraiment le grand livre. Voilà. Alors c'est surtout dans les textes ce qu'on appelle souvent le deuxième Isaïe, c'est-à-dire l'Isaïe de l'exil, alors que l'Isaïe historique, il est autour des années 700, par là. Là, on est en 580, ou là, par là. Donc, c'est surtout les chapitres donc 40-55, mais c'est surtout 40-45 qui sont pratiquement uniquement consacrés à dénoncer les idoles et mettre en valeur le Dieu unique. Alors, il y a une sorte de résumé qui est fait au début du livre d'Isaïe, au chapitre 2, verset 8. Parole d'Isaïe, fils d'Amoz, qu'il a vu ses paroles au sujet de Juda et de Jérusalem. Oui, tu as délaissé ton peuple, maison de Jacob, car ils sont remplis des superstitions de l'Orient. Ils exercent la divination comme les Philistins, ils applaudissent aux pratiques étrangères. Le pays est rempli de chevaux, on ne peut plus compter ses chars, tellement il y en a. Le pays est rempli de faux dieux. Les gens se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. On peut dire, là, c'est une sorte de petit résumé au tout début du livre qui annonce quelque part ce qui va être dit, surtout dans les chapitres 44, 45 ou 40 déjà aussi. Donc je vous ai mis un seul texte sur votre feuille. Et j'en cite un autre. Alors peut-être qu'on peut regarder ça simplement. Hein. À qui pourriez-vous assimiler Dieu ? Quel simulacre de mout, l'hébreu, vous lui donneriez ? Alors, simplement, là je me trompe un petit peu, c'est que le traducteur a voulu essayer de montrer que assimiler et simuler, simulacre, c'était la même racine hébraïque pour ça. Il y a un jeu de mots, voilà. L'idole, c'est un artisan qui l'a fondu. Vous voyez, il va démystifier les idoles. Hein, les idoles, c'est des artisans qui les ont fait. Voilà. Un orfèvre plaque sur elle. Alors, il décrit souvent le travail des artisans, comment ils font pour faire ces fameuses idoles. Donc là, vous avez ça ici, au chapitre 40. Hein, l'orfèvre plaque sur elle de l'or, il fabrique des chaînettes d'argent. Le pauvre, pour ses dévotions, choisit du bois imputrescible, donc on peut choisir un bon bois. Il cherche un artisan pour fixer une idole qui ne vacille pas. Voilà, et donc par rapport à ça, est-ce que comment se fait que vous vous laissez prendre par cela, alors que n'avez-vous pas compris comment la terre a été fondée ? Le Seigneur habite au-dessus de la voûte comme une toile, il a tendu les cieux, il les a dépliés comme une tente d'habitation. Voilà des beaux verbes pour dire l'acte de création. Donc c'est aussi des images qu'Isaïe ose pour dire quelque chose de comment Dieu a créé le monde. Puis vous avez au chapitre 44, là, c'est intéressant ce que je vous cite, là, versets 9 à 17. Là, c'est vraiment une satire, c'est-à-dire il se moque vraiment et longuement des fabricants d'idoles. Hein, par exemple, il vous donne tout le processus. Hein, le forgeron fabrique un ciseau sur des braises, le façonne à coups de marteau, il le fabrique à la force du bras, puis il a faim, c'est pénible. Donc le voilà sans force, il est épuisé. Après, le menuisier prend des mesures, il esquisse une idole à la craie, il la travaille à la gouge, il l'esquisse au compas, il la travaille en prenant pour modèle un homme, la beauté d'un être humain afin qu'elle habite une maison. Puis il a débité des cèdres, il a pris du chêne, il a planté des arbres en vue des idoles. Voilà, pour l'homme, c'est du bois à brûler, il le prend pour se chauffer, et puis il a une partie, il s'en sert pour fabriquer un dieu, et il se prosterne, il s'incline devant elle. Eh bien, il brûle la moitié du feu, et il dit, je me chauffe et je vois la flamme. Et puis avec le reste, il fait un dieu, son idole, il s'incline, se prosterne devant elle, et il l'implore et il dit, « Délivre-moi, car tu es mon Dieu. » Vous voyez, c'est vraiment une satire bien, bien tournée. Hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est une satire sans équivoque. Hein, les idoles ne sont rien, ne peuvent pas donner une idée de Dieu, ne peuvent combler qu'en apparence le désir profond de se représenter Dieu. Et on ne peut pas le représenter par des images sculptées dans le bois, qui sont vraiment des œuvres humaines. Voilà. Mais par contre, Isaïe va déployer une abondance de discours pour parler de tout ça, y compris pour mettre en évidence l'unicité de Dieu, sa grandeur de créateur et de rédempteur. Et justement, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'au fond, il critique les artisans qui font des idoles, mais pour dire le Dieu créateur, mais il le présente comme un artisan qui crée, qui modèle le monde. Vous voyez, là, il a tendu les cieux comme s'il a une toile. Enfin, vous voyez, c'est très, très concret, quoi. Donc, finalement, c'est... Je prends quand même un exemple sur le travail d'un artisan pour parler de Dieu. Il renverse un peu la chose, mais c'est intéressant à noter. Et, alors vous avez cette phrase, hein, « À quelle ressemblance, cette fameuse demout, lui ferez-vous ressembler, Dieu ?» Voilà, c'est la recherche, au fond. À qui il ressemble ? Eh bien, la réponse est, il est si grand que rien ne peut le représenter adéquatement. Parce qu'il est le créateur des cieux, c'est lui qui préside à la marge des astres, mais qui en même temps, et ça c'est la leitmotiv d'Isaïe, c'est Dieu créateur et Dieu rédempteur, c'est-à-dire qui a fait alliance avec Israël, qui lui a offert le salut, et qui est dans une alliance bénéfique, qui est intervenue dans l'histoire d'Israël. Et finalement, ce qui donne à voir, finalement, Dieu, c'est son œuvre de rédemption. Il faut regarder l'histoire d'Israël pour dire qui est Dieu au fond. Notamment, ben, le deuxième Isaïe, chapitre 40 et suivant, il va mettre en exergue notamment le fait que Dieu est en train de susciter Cyrus, l'empereur, pour libérer Israël, pour lui permettre de revenir sur ses terres. Et ça, c'est une œuvre de salut. Au fond, les idoles, elles ne sont pas solides, elles ne donnent pas le salut. Parce que le Seigneur, lui, tient d'une main ferme ce serviteur, son peuple. Voilà. Puis enfin, on peut faire un certain portrait du Seigneur à travers tous les anthropomorphismes nombreux que ne craint pas d'employer le livre d'Isaïe. Donc, je vais parler de... Déjà, voilà, première chose, c'est que, notamment le deuxième Isaïe, on ne sait jamais trop qui parle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup cette formule oracle du Seigneur, par exemple. Elle y est de temps en temps, mais très peu. Donc, on a l'impression que c'est une seule coulée, là, une vingtaine de chapitres, qui sont... Est-ce que c'est Dieu qui parle? C'est le prophète? Donc, il y a une très forte présence de la parole. Là. Et ça, c'est déjà une manière aussi de représenter Dieu qui parle, comme celui qui parle. Mais la parole, elle s'entend, elle ne se voit pas. Et puis donc, voilà, on peut faire l'inventaire des anthropomorphies. J'ai déjà parlé celui de l'artisan, mais aussi Dieu, ben, il a un corps, il a des mains, des yeux, des oreilles. Un souffle, enfin, je ne vous donne pas toutes les références, hein. Il tient par la main son peuple craintif, il habite sur le dôme qui couvre la terre, parce que dans la représentation des choses, ce que nous on appelle le ciel bleu, pour Israël c'est une voûte solide, puis il y a des trous qui permettent de laisser passer la pluie. Donc Dieu il est en-dessus. Voilà, puis il a façonné Israël comme l'artisan façonne les idoles. Voilà. Donc j'ai cité ce chapitre 44, hein, où il y a vraiment cette clarté autour de la vanité des idoles. Hein, Dieu est créateur et rédempteur. Et par contre, on ne trouve pas chez Isaïe, mais la plupart des prophètes, aucune allusion explicite à cette loi de l'interdiction de faire des images. Il ne se réfère jamais à cette législation, disons. Mais je dirais qu'il l'applique d'une certaine façon. Mais c'est vrai que c'est aussi une chose à noter. Voilà. Alors, un dernier point sur Isaïe, parce que je le retourne. La vision d'Isaïe, au chapitre 6, vous avez la vision d'Isaïe qui voit la gloire de Dieu. « Je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé, les pans de son manteau remplissaient le temple, puis il y avait des séraphins qui chantaient « Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Donc là, c'est intéressant parce que ça dit quelque chose de l'impossibilité de représenter Dieu, mais ce qu'on pourrait éventuellement en voir, ce n'est rien par rapport à l'immensité de Dieu, d'une certaine manière. Puisque là, la frange de son manteau, c'est pas grand-chose, ça suffit à remplir tout le temple. Donc, que sera le reste, hein, voilà. Voilà, ça c'est Isaïe. Alors, il y avait un gros morceau, mais je vois que l'heure arrive vraiment vite. Hein. C'est autour d'Osée. Parce que Osée, alors, les audaces d'Osée, vous voyez, c'est un peu un titre. Osée, c'est un autre type de point de vue. D'abord, il est plus ancien que je reviens en arrière que Isaïe, que deuxième Isaïe. Osée, c'est plutôt vers 700, par là. Alors, donc Osée, il va prendre un petit peu... Son travail, au fond, de lui, c'est de d'acclimater, je dirais, la foi d'Israël marquée par la tradition du désert, on pourrait dire, et puis l'acclimater dans un contexte cananéen, sédentaire, où il y a des dieux qui sont bien acclimatés, eux, hein, voilà, où il y a notamment Baal, hein, Baal qui est spécialisé dans la réussite de l'agriculture. Tandis que Dieu d'Israël, qui vient du désert, il ne connaît pas grand-chose dans l'agriculture. Vous voyez ? Alors, simplement, je ne peux pas dire beaucoup, on connaît beaucoup mieux le monde cananéen, disons, à partir des découvertes qui ont été faites à partir de 1929 sur le site d'Ougarit, c'est en Syrie actuellement. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on a découvert beaucoup de textes qu'on sait lire, qui souvent ont cunéiforme, mais on arrive à les lire. Et là, on a des mythes autour de Baal. Enfin, ça a vraiment été une. Ça fait vraiment faire avancer, comprendre les choses. Donc, il y a, dans le panthéon de Canaan, disons, il y a Baal, qui est. Oui, qui est en couple d'abord avec une déesse, qui s'appelle Anat. Alors c'est lui qui est compétent pour tout ce qui concerne donc voilà notre Baal, ce qui concerne la fécondité, et puis donc il y a elle, hein, qui paraît comme un vieil homme, créateur, puissant et roi dans son palais, sur les hauteurs. Voilà. Et puis dans les mythes d'Ougarit, ben, il y a notamment l'histoire du fait que, comme les saisons, ben, il y a l'hiver, il y a le printemps, l'été, ben, Baal, il suit ça, c'est-à-dire pendant l'hiver, il disparaît. Après, il revient, il meurt et il ressuscite. Donc, ça, c'est important. Puis, il y a aussi cette déesse Anat, qui est importante. Puis, dans la religion, on pourrait dire populaire, il y avait la pratique de la prostitution sacrée, hein, qui a été bien combattue par les prophètes, mais l'idée c'était, il y avait des prostituées près de certains lieux, et qui accueillaient les fidèles, et puis qui pensaient qu'en s'unissant à ces prostituées, ils allaient favoriser les récoltes, etc. Alors, Osée, ben, comment il va faire ? Il va employer plusieurs choses. Alors, moi, je ne peux pas trop. Je vous invite à lire Osée. Hein. Les chapitres 1 à 3, on raconte comment Osée, Dieu lui demande d'épouser une prostituée pour justement cette prostituée la réhabiliter. Alors, cette prostituée, dans la symbolique, elle va représenter à la fois Israël. Qui s'est prostituée avec dans les idoles et tout ça. Et puis elle va représenter aussi la terre, cette terre justement dont on attend la nourriture, etc. Alors, voilà. Donc, dans ce chapitre 1 à 3, justement, on voit qu'il y a un peu un passage entre cette prostituée qui va devenir une épouse. En repassant par l'étape des fiançailles, puis une épouse, eh bien, elle représente la terre, mais voilà, elle n'a pas compris que c'est moi qui lui donnais blé, vin nouveau et huile fraîche. Donc, il osait me dire, c'est pas Baal qui vous donne la fécondité des terres, c'est le Seigneur lui-même, Dieu. Mais il ne le fait pas comme vous l'attendez. C'est un don gratuit. Enfin, il n'y a pas besoin de faire tant de choses pour l'avoir. La transcendance de Dieu ne se confond pas avec ses processus naturels. Voilà. La fécondité de la nature, c'est un peu un surcroît. L'important, c'est l'alliance d'amour qui est au départ. Hein. Donc, ce mariage symbolique de Osée, pour dire que Dieu aime son peuple gratuitement, on pourrait dire. Et puis il y a une deuxième chose dans Osée, il utilise aussi ce fameux mythe de Baal qui meurt et qui revient. Donc il est pour expliquer le retour des saisons. Donc est-ce que Dieu de l'Israël peut se dire dans le cycle éternel, c'est-à-dire des saisons? Par exemple, on a un passage autour de Osée 6, par là. Dieu nous punit aujourd'hui, mais demain, il va nous guérir. Il a un jour, c'est l'hiver, mais viendra le printemps. Ça, c'est pas une bonne vision des choses. Et donc, à un moment donné, Dieu décide de s'absenter. Il n'est plus là. Et puis, est-ce qu'il va revenir? Il hésite à venir guérir son peuple. Au final, il le guérira à la fin du livre. Il faut attendre tous les chapitres. Donc, c'est une manière pour Osée d'affirmer la liberté de Dieu. Il n'est pas un fournisseur qu'on honore par intérêt. Ni l'homme, ni Dieu ne s'achètent l'un l'autre. Ce serait un peu le système de la prostitution, au fond. Leur mariage, ce n'est pas un arrangement, mais c'est une alliance, relation de don et de réponse. Voilà. Et c'est là que vous avez cette phrase, hein, c'est l'amour qui me plaît et non le sacrifice. On n'achète pas. Voilà. Je suis Dieu et non pas homme. Chapitre 11, verset 9. Puis à la fin, il a aussi un autre point, c'est l'emploi du vocabulaire cananéen. Il se sert de certains mots qui ont double résonance, qui résonnent dans la foi d'Israël, foi orthodoxe, mais qui résonnent aussi dans la religiosité populaire. Par exemple, les noms. Il y a deux enfants qui naissent, trois même. Donc il y en a un, il est appelé Israël. Alors Israël, c'est un lieu historique où toute une dynastie royale a été massacrée, c'est raconté dans le livre des rois, mais ça veut dire aussi Dieu sème, le verbe semer. Donc toute cette question de vitalité, de fertilité qui était un souci. Le deuxième enfant, il s'appelle Lo-Ruhama. Alors ça veut dire celui qui n'est pas aimé, d'un amour maternel, on peut dire. Mais c'est aussi une allusion à une déesse du panthéon cananéen qui s'appelle Rahmaï. Voilà. Bon. Puis le troisième enfant, Lo-Ami, pas mon peuple, ça rappelle l'alliance, je serai mon peuple, je serai votre Dieu. Puis en même temps, il y a une allusion au Dieu El, puisque Lo, en hébreu avec les deux lettres, Lamed, Aleph, vous remettez dans l'envers, ça fait Dieu. Voilà. Et puis il y a aussi des verbes qui ont une résonance particulière. Par exemple, le verbe répondre, en hébreu Anna, ça renvoie aussi à la déesse Anat. Alors il y a aussi toute cette jeu de mots. Voilà. Je vais bientôt m'arrêter, non? Normalement, il faut s'arrêter au bout d'une heure. Peut-être tous épuisés. Alors, j'avais deux petits. Alors, attends, je reviens à mon plan.
On peut continuer encore.
Oui, on va continuer.
Oh, oui, 10 minutes encore.
On va continuer encore. Donc, je reviens à mon plan. Voici Jérémie et Ézéchiel en bref, parce que là aussi, c'est deux grands morceaux. Il y a 48 chapitres d'un côté, 50 qui vont bien dans l'autre. Donc, voilà, je vais venir après. Donc, chez Jérémie, vous trouverez un peu le même type de dénonciation des idoles que vous trouvez chez Isaïe, mais il y a aussi chez Jérémie une reprise des thématiques du livre d'Osée, notamment autour des thématiques nuptiales. C'est intéressant pour ça. Et notamment, il va employer le mot de prostitution. Israël s'est prostitué en allant vers des amants multiples que sont les idoles. Ils ont abandonné l'alliance du Seigneur pour se prosterner devant d'autres dieux. Donc là, c'est de rendre un culte. Donc vous avez notamment le chapitre 10, Donc je vous en ai mis un petit extrait. Jérémie, voilà. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre, qu'ils disparaissent. Alors, le Seigneur a fait la terre par sa puissance, il établit le monde par sa sagesse. Quand il donne de la voix, voilà encore une image, donne de la voix, que les eaux grondent, il fait monter les nuages, il lance les éclairs pour la pluie. Il n'en est pas ainsi. Il n'est pas ainsi celui qui est la part de Jacob, car il a façonné toute chose. Voilà. Donc il y a toujours aussi le contrepoint des idoles, c'est Dieu créateur. Voilà. Les idoles sont des créatures de l'artisan, et alors qu'elles ne peuvent pas représenter le Dieu créateur. Pardon. Mais par contre, je voudrais insister, c'est chez Jérémie. Voilà, donc les idoles sont multiples, mais il n'y a qu'un seul Dieu, il est le créateur, alors qu'elles sont créées, sont des créatures, même des objets. Même. Et puis, Jérémie n'hésite pas non plus à donner à Dieu, à en parler en termes anthropomorphiques, et à la voix, il est roi, il s'emporte. Et puis, vous avez cette fameuse texte, « Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire ». Donc, il y a aussi ce langage un peu nuptial aussi. Et puis, dans Jérémie, alors, les enfants du catéchisme le savent bien, il y a beaucoup d'actions symboliques. Il y a l'image du potier, par exemple. Jérémie qui est invité à aller chez le potier voir ce que le potier est en train de faire. Donc, le potier est en train de faire un vase, il le manque, il le recommence. Ben, Jérémie va recevoir, Dieu lui demande de dire, ben voilà, c'est pas ce que je vais faire, je suis comme le potier, je vais agir avec vous à la manière du potier. Peut-être vous faire passer par une épreuve et ensuite pour un renouveau. Bien, il y a le célibat, il est invité à rester célibataire, ce brave Jérémie, pour anticiper la parole de Dieu qu'il va transmettre, qui va être une annonce de sanction pour le peuple infidèle. Vous avez aussi le mime des pierres qu'il faut enfouir à l'entrée du palais du Pharaon pour... c'est une vision, hein, pour visualiser à l'avance la parole de Dieu à dire sur à propos de l'intervention du roi de Babylone en Égypte. Bon, c'est une circonstance particulière. Mais disons, ce qu'on voit, c'est que tout l'aspect visuel est très sert pour le message à dire. Hein. Et puis, je termine là-dessus, pour Isaïe, à la fin du livre, il est raconté la prise de Jérusalem. Et il y a un inventaire de tout le mobilier du temple qui a été emporté. Et on va pouvoir s'étonner, donc ça c'est les 582, hein, par là. On va s'étonner de voir qu'il y a 12 bœufs de bronze. Donc dans le temple, il y avait une représentation d'animaux, des bœufs. Il y avait des chapiteaux de bronze orné de centaines de grenades, alors c'était des fruits, ben, voilà. Puis il y avait autant d'images, donc normalement c'est des choses qui sont interdites d'après Exode 20 ou Deutéronome 4. Voilà, on avait tout ça dans le temple. Dernier point, puis je vais bientôt arrêter. Ézéchiel. Attendez, mais j'ai avancé. Là, donc Ézéchiel, c'est aussi l'exil. Là, je vous présente Marduk. C'est un joli dieu, vous voyez, qui a beaucoup d'ailes. Donc c'était le grand dieu babylonien, le roi des dieux de Babylone. Alors là aussi, Ézéchiel, il dénonce les pratiques idolâtries qu'il a toujours pratiquées. Donc Ézéchiel, c'est pendant l'exil à Babylone. Donc vous saurez que je suis le Seigneur, Ils seront couchés au milieu de leurs idoles immondes, autour de leurs autels, au sommet de toute montagne, là où ils offraient des parfums. Donc voilà, tout ça existait. Et Ézéchiel est transporté au cours d'une vision à la porte du temple. Et voilà ce qu'il voit. Alors, je ne vais pas tout le détailler, mais au fur et à mesure qu'il avance, il en voit des horreurs de plus en plus grandes. Par exemple, il y avait quantité d'images de reptiles et de bêtes, une horreur. Et toutes les idoles immondes de la maison d'Israël, gravées tout autour sur le mur. Après, c'est une vision, hein, c'est pas forcément dire que c'est exactement ça, mais ça dit quand même quelque chose. Et il y a aussi les prêtres qui sont dans une pièce où se trouve l'effigie d'une idole. Et ils disent, le Seigneur ne va pas nous voir, le Dieu d'Israël nous a abandonnés, alors on se tourne vers d'autres. Bon, etc. Voilà. Il y avait même aussi des femmes qui pleurent la déesse Tammuz, déesse babylonienne. Puis la dernière vision, elle concerne le temple, à partir du chapitre 40, là. Et là, sur ce nouveau temple idéal, qui n'a jamais été construit comme ça, c'était un temple, c'était carré, eh bien, on s'étonne aussi de voir qu'il y a des chérubins, des palmes sur les murs, des chérubins à double face, homme et lion, à la manière babylonienne. Et puis, aussi, alors, autre point, il y a des visions. Le livre est ponctué de visions de la gloire de Dieu. Alors justement, dans Ézéchiel, il y a cette grande sensibilité au fait que Dieu ne peut pas le représenter, on ne peut pas le voir lui-même, mais on peut voir sa gloire. Enfin, lui, dans sa vision, il a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas un Dieu total. On pourrait dire que c'est une partie, mais c'est peut-être mal dit, hein. C'est la gloire, c'est en Dieu en tant qu'il se révèle, qu'il manifeste sa puissance, sa sainteté. Puis là, si vous lisez attentivement, notamment le chapitre, premier chapitre, hein, quand on arrive, on monte plus en plus vers la gloire, plus on arrive vers le point focal de la vision, plus il y a des circonlocutions pour dire que c'est comme, c'est à l'apparence d'eux, mais c'est pas vraiment, enfin voilà. C'est très, 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 très. Il y a une ressemblance. Voilà, l'aspect, il y a ces mots qui viennent. L'aspect, la ressemblance, on retrouve de nouveau Demut là, de la gloire de Dieu. Il y a une forme de main, là, c'est tout ça. Et puis, à la fin, dans la vision finale du temple, ben, la gloire du Seigneur remplit tout le temple. Et seulement, on dit, ben, le temple, c'est seulement l'emplacement de mon trône, la place de mes pieds. Mais tout le reste, c'est, on ne le voit pas. Voilà. Et puis, il me semble, dans Ézéchiel, il y a cette idée que le prophète lui-même, le fait qu'il soit au milieu des exilés qui ont perdu le temple, qui n'ont plus de liturgie organisée, eh bien, le fait qu'il y ait un prophète, Dieu lui dit, va, rends-toi vers les exilés, tu leur parleras, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Donc, quelque part, le prophète, c'est une sorte d'incarnation de la parole de Dieu, c'est sa présence déjà, qui est là. Voilà, mais je conclue, c'est quelques conclusions. Voilà. Donc il y a cette parole dans Isaïe 45, 15, « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël. » Et à quoi le Seigneur répond, « Je n'ai pas parlé en cachette, je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi dans le vide. » Vous voyez, c'est à la fois Dieu se cache et on peut le trouver, mais dans sa parole. Et puis, deuxième point, les prophètes ne se plaignent pas de ne pas pouvoir représenter Dieu, Puis donc, comme je le disais, ils ne font pas allusion aux lois qui interdiraient la représentation de Dieu. Mais leur critique constante du culte des idoles leur a enseigné, au fond, que de l'image à l'idole, il y a souvent un pas, un seul pas, il n'y a qu'un pas. Ça, c'est une formule que j'ai trouvée dans Bruno Chenu. De l'image à l'idole, il n'y a qu'un pas. Donc, si on a une foi bien enracinée, on peut comprendre que la possibilité des images, mais là, il y a toujours le risque que ça devienne, qu'on ça tourne à l'idolâtrie, quoi. Une statue, une pierre levée, une stèle ne peuvent être que des mémoriaux, parce qu'on trouve ça aussi dans de nombreuses fois dans la Bible, où Jacob, par exemple, quand il a eu ce combat là-bas, et à la fin, il dresse une pierre pour se rappeler qu'il y a eu ça. Donc ça, c'est des mémoriaux. On fait mémoire de quelque chose, ça, on peut le faire. Mais Dieu est immense, on ne peut pas le contenir, ni le décrire adéquatement, mais en même temps, il est proche. Il y a un mouvement d'alliance qui le rapproche des hommes, c'est un peu un paradoxe. Et peut-être bien que c'est une lame de fond, qu'il y a une tendance, on pourrait dire, vers l'incarnation. Comment dire ça? Ça, c'est un chrétien qui parle, mais on peut quand même trouver ça. Et justement, peut-être pour conclure, comme chrétien, je parle là maintenant, évidemment, tout ça fait penser à deux citations que j'ai en tête. Saint Paul, à propos du Christ, il est l'image, alors en grec, eikon. J'ai regardé une transcription du Nouveau Testament en hébreu, de Delitzsch, là. Il a écrit tselem, là. Pour image, tselem, donc c'est le mot qu'on trouve. Hein. Donc il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Et puis deuxième phrase, dans l'évangile de Jean, dans les premiers mots, Dieu personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est Dieu, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà, j'ai terminé. J'ai été très long, hein. On a dépassé le tarif. Hein.
Très bien. Voilà. Alors maintenant, on va commencer par des questions. Si vous avez. Je peux démarrer, s'il n'y a pas. Oui, j'ai l'impression si la parole finalement vraiment l'emporte sur. Oui, merci. La parole l'emporte vraiment sur l'image. Dieu s'exprime beaucoup plus par la parole. Donc c'est par la voix qu'on va sentir cette présence. Et méfions-nous des images. C'est un peu le. Et entre ce que l'on entend et ce que l'on peut voir, il vaut mieux spirituellement entendre que de voir par rapport à tous ces prophètes. Ils nous invitent à la prudence dans ce que l'on voit, mais par contre, d'être à l'écoute de la parole puissante.
Mais pour parler de Dieu, on a besoin d'images. Dans la parole, mais...
Il y a une contradiction, alors. Là.
Non, mais les images, pas visibles, mais de faire référence au créé, à la création, non?
Oui.
C'est ce que font les prophètes, hein, quand ils disent, ils parlent des mains, de la face de Dieu, de sa voix, etc. Donc on ne peut pas faire autrement, quoi. Que d'employer des choses figurées, je ne sais pas comment dire. Et après, de là, faire des statues, c'est autre chose.
Il y a une différence entre...
Je vais me déplacer.
Un micro.
Je vais vite me déplacer. Oui, parce que c'est enregistré. Parce qu'il y a ici.
Oui,
Oui, il y a la différence entre l'image qu'on utilise pour dire quelque chose de Dieu, parce qu'on est des humains et qu'il faut bien, on peut pas, on n'est pas des anges, enfin, oui. Moi, peut-être vous, mais... Et puis la façon de les créer, de les construire, enfin, avec le risque de confondre la création avec ce qu'elle veut dire.
Ça.
On a des constructions, enfin chez nous les chrétiens, beaucoup dans l'Église catholique, les statues, on en a des quantités, y compris le Christ qu'on a devant nous le soir. Mais ça, c'est pour fixer notre regard, mais notre regard doit aller au-delà de l'image.
Oui,
vous
en pensez ? Tout à fait, oui. Ah, bon, voilà.
Un truc que je vais rejoindre un peu ce que vous disiez, c'est que finalement, le Christ nous rappelle, quand il vient éclaircir un petit peu tout ça, je vais le dire comme ça, on vous dira, il est là-bas. Non, il est là. C'est le logos, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la parole, mais la parole, elle est en nous.
En nous aussi, oui.
Et c'est pas en observant des objets, on peut vite aller à la confusion de vénérer l'objet en oubliant le sens. Et la parole qui est derrière et qui, elle, est en nous, à chercher en nous. Et ça rejoint un petit peu aussi le lieu saint, Asherah, c'est-à-dire le lieu de l'union de Dieu qui pénètre, c'est pour ça que c'est le féminin de l'être, homme ou femme, c'est qu'il doit y avoir une union du féminin, du masculin, une unité qui est créée dans l'amour que Dieu nous envoie et qu'on entend en nous et qui va nous pénétrer dans le lieu saint. Donc l'image du masculin et du féminin, Asherah, le féminin, c'est un lieu saint, c'est pas une femme, c'est intérieur. C'est quelque chose qui doit être pénétré de l'amour divin. Donc il faut que nos oreilles, si on en a, entendent le logos, donc la parole, que nos yeux voient, et que cette union se fasse dans ce lieu saint qui est dans chacun de nous. Et c'est vrai que alors moi j'ai été très perturbée cet été en Grèce par les églises orthodoxes, du coup, parce que je me disais, et là, on est à fond dans l'image. L'image, la représentation. Ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Donc, j'en profite pour en parler ce soir, parce qu'on est, vraiment. Et je suis aussi allée dans le sud de l'Italie il n'y a pas longtemps, où j'ai eu la chance d'aller voir Padre Pio, et où j'ai vu beaucoup de gens embrasser des objets, beaucoup d'objets. Et je me suis beaucoup interrogée sur cette. La question de l'idolâtrie. Est-ce quand on embrasse, on touche, mais est-ce qu'on se rappelle que c'est en nous ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne cherche pas ailleurs partout ce qu'on doit trouver dans ce lieu sacré en entendant le logos dans notre être ? Voilà.
Alors pour les icônes et tout ça, je renvoie à la fois prochaine, nous aurons tout ce qu'il faut.
En attendant de parler des icônes la prochaine fois, puisque c'est mon sujet, en effet, pour moi, je suis peut-être simplette, mais je trouve que c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on peut dire comme ça. Pour moi, Dieu, comment il se révèle à nous, c'est par la parole. Et finalement, c'est ce que nous ont appris les Juifs. Chemin Israël, chemin, écoute. Dieu va nous parler, on écoute. Mais on l'écoute, mais on ne le voit pas. Et Dieu, personne ne l'a jamais vu, comme dit très bien Saint Jean. Alors, que nous parlions entre nous, avec des images, moi je vénère pas du tout ni des statues, ni des images, mais il y a des images pour parler, pour expliquer quelque chose. Moi j'aime beaucoup l'image du potier. Dieu est comme un potier avec nous. Ben, je ne vois pas un potier, mais je comprends l'idée. Il nous façonne. Il a façonné les premiers humains, mais il ne les a pas fait non plus avec des mains. C'est une image pour comprendre, c'est tout. Mais parce qu'on est humain, on ne peut pas être complètement dans l'abstraction, ou alors on se tait complètement, c'est plus possible de parler. Voilà, c'est tout.
On se sert de la créature, de la création pour,
on se sert
pour parler de celui qui a créé.
Et de ce qu'on connaît. Si je voulais dire une autre chose, c'est qu'il me semble que toute la Bible, dans toute la Bible, on dénonce l'idolâtrie. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes. parce que tout le monde peut toujours retomber dans une idolâtrie quelconque. Et il n'y a pas que celle des images. L'image de la prostituée, c'est plus qu'une image encore. Parce que finalement, si je me souviens bien, le petit, comment il s'appelle, Samuel, qui entend la voix de Dieu, il ne le voit pas, il l'entend. Finalement, il y avait de la prostitution sacrée dans le temple. Et finalement, Samuel s'est beaucoup opposé à ça par la suite. Et finalement, c'était le prêtre qui était là dans le temple, c'était Élie, je crois. Et finalement, Samuel va prendre la place des deux fils d'Élie qui, eux, pratiquaient la prostitution sacrée dans le temple. Mmh. Voilà. Et alors, moi, quand je lis la Bible, je la prends aussi pour nous, chrétiens, parce que c'est toujours pareil. Tout le monde peut retomber, peut-être pas dans la prostitution sacrée, mais dans l'idolâtrie. Il me semble que notre époque est complètement dans l'idolâtrie. Idolâtrie du corps, idolâtrie du pouvoir, de l'argent, etc. Ben, c'est ça, on est retombé dans les idoles. Voilà.
Alors, ce qui est important, tout au début du livre d'Isaïe, où il est question des idoles, il cite aussi l'argent. Voilà. Les prophètes, l'idolâtrie, et puis la question de l'enrichissement, de l'exploitation des pauvres, tout ça, ça marche ensemble.
Bien, je me rapproche. Tu avais été parmi les premiers à lever la main.
Je voulais revenir encore sur cette notion d'un pas de l'image à l'idole. Donc on a parlé de la voix, et pourquoi pas du chant? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'idole des jeunes. Johnny Hallyday. Et comme par hasard, chant en hébreu, ça se dit shir,
oui.
Comme Ashira, qui correspond à la déesse Ashira. Et on retrouve aussi ce mot Ashira dans le Deutéronome, puisqu'il dit tu ne planteras pas de Ashira. Alors c'est traduit comme bosquet, je sais pas. C'est un nom que je découvre pour la première fois, je savais même pas que ça existait. Je vois pas tellement le rapport, j'arrive pas à voir à quoi elle correspond comme racine, à part le mot chir, justement.
Comment ?
Et on le voit aussi dans Ashrei, qui veut dire heureux,
ouais.
Dans le Asher, qui veut dire que, donc le lien en fait. Hein. Enfin, disons que c'est une racine qui est assez inhabituelle, disons.
D'accord.
Alors ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Et le deuxième, c'est le fait que Osée ose parler de la prostitution sacrée. Or, prostituée en hébreu, ça se dit zona, mais ça se dit aussi kedesha, qui veut dire justement, qui se rapproche du mot kadosh, qui veut dire sacré, justement. Donc on peut se demander si c'était pas vraiment quelque chose qui était respecté à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Je souhaitais revenir à l'origine, presque l'origine. Finalement, celui qui a entendu Dieu le premier, c'est Abraham. Et qu'a-t-il fait? Il a cassé les idoles de son père, ce que lui a demandé de faire Dieu, pour croire en un seul Dieu, en Dieu unique. Donc il s'est manifesté par la voix intérieure, par une écoute. Abraham a entendu, et c'est certain que cette entente, cette écoute est profonde, parce qu'elle arrive à faire vraiment des choses si importantes. Et il a quitté son père et sa mère, enfin, vous connaissez l'histoire, il est parti, il a suivi vraiment la parole de Dieu. Mais à condition, effectivement, de casser les idoles du père, que le père fabriquait. Et là, c'est l'origine. Je pense surtout que ça a mis un temps fou et que ça continue 3500 ans après, où il y a toujours les idoles. On est dedans, en plein. Alors, est-ce qu'on doit casser des choses pour cela? Est-ce qu'on doit plus écouter?
Est-ce qu'on doit être plus intuitif? Parce que je pense que les prophètes avaient en eux quelque chose de profondément intuitif. Ils devaient certainement méditer beaucoup pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Voilà.
Oui, voilà. Tout à fait. C'est beau. Il n'y a pas trop à redire. Il y a aussi l'épisode du veau d'or. Donc ce veau, ben, ça peut faire allusion à Baal aussi. Hein. Enfin, bon. Mais ce qui m'a étonné dans cet épisode, Aaron dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte une fois que le veau a été érigé. Hein. Et puis, juste après, demain, fête pour le Seigneur. Donc, les dieux d'un côté, le Seigneur d'Israël de l'autre. Enfin, il y a une sorte de mélange. Ça montrait bien qu'il y avait ce besoin de représenter, de toucher, d'avoir une création qui soit significative, est assez profond quand même. C'est, finalement, la grande tentation, c'est de vouloir se fabriquer son Dieu, c'est un peu ça le grand péché, finalement. D'ailleurs, voilà, l'image de l'artisan qui fait ça c'est une enfin, c'est simple. Alors, mais la profondeur, c'est voilà, on a toujours tendance à se fabriquer son Dieu, qui est le reflet. Alors, bon, après, il y a toutes les Freud, Nietzsche et toute compagnie, tous ceux qui vont dire voilà, Dieu, c'est une projection de nos problèmes. Mais donc, il y a toujours ce travail d'épuration, de veiller à ce que, de fait, on accueille bien la nouveauté de Dieu et non pas simplement en faire un Dieu qui nous arrange, finalement, quelque chose comme ça.
Je voudrais peut-être ajouter quelque chose pour aujourd'hui. On n'a plus de prophète depuis très très longtemps. Qui entend Dieu? Et comment chacun de nous pouvons-nous l'entendre? Là encore, c'est une question, parce que les prophètes menaient le peuple, aidaient le peuple, donnaient des informations. Vous ne ferez pas cela, sans ça il se passera ça, vous serez punis, et puis finalement vous serez rachetés. Il y avait comme des guides. Qui sont nos guides aujourd'hui?
On n'ose pas donner des noms. Hein.
Alors, moi, je peux me permettre une proposition, une réponse. Nos prophètes d'aujourd'hui, ce sont les rabbins, les prêtres, les pasteurs, un peu. Ils nous apportent une parole au temple, ou à l'église, ou à la synagogue.
J'aurais dit ça.
Tu peux. Mais enfin, ils ne sont pas prophètes, mais. Mais ils apportent une parole quand même. La parole ne disparaît pas.
Moi, je crois qu'on a beaucoup de prophètes, mais simplement, il faut les voir et puis vouloir les écouter. Mais on a des théologiens, des théologiennes, des gens, je ne dis pas de nom, mais vous en connaissez tous. Et moi, j'en ai vraiment connu et rencontré simplement un certain qui était... juif et cardinal, Lustiger. Pour moi, c'est un vrai prophète. Et là, on ne l'écoute pas encore.
Alors, peut-être qu'on les écoutera plus tard, dans quelques décennies, espérons.
Il faut commencer tout de suite.
Oui, souvent, oui.
Alors, dans la parole, est-ce qu'il n'y a pas aussi la puissance de l'écriture, la puissance de la Bible? C'est-à-dire que la Bible, quand même, elle dégage cette parole qui va traverser les siècles. Donc, ça s'incarne par nos textes.
Dans Isaïe, à plusieurs endroits, il lui est demandé d'écrire. Écris cela pour qu'on s'en rappelle, etc. Donc, on le voit déjà, même dans les livres prophétiques, il y a l'idée de mettre par écrit pour que nous puissions entendre à nouveau cette parole, pour qu'elle redevienne vivante. Puis c'est un témoignage aussi, voilà. C'est un peu comme les stèles. C'est un mémorial de la parole de Dieu qui a retenti à un moment donné et qui peut toujours renaître. Enfin, toujours, elle est toujours vivante, donc il faut la réentendre. Oui, oui, écrit. Bon, je pourrais... Je sais plus quelle...
Alors, est-ce qu'on peut dire que la parole aurait une dimension de transcendance et nos textes, c'est un peu l'immanence, ils incarnent, nos textes incarnent cette parole transcendantale.
Ah oui, ça. Bon, après, par rapport à l'écriture aussi, il faut. Comment dire, je n'ose pas dire ça. Il ne faut pas l'idolâtrer non plus. Parce que, dans le sens, il faut attention, parce que là, ça peut être dangereux de dire ça.
Oui.
Dans le sens où il faut toujours qu'elle redevienne une parole vivante. C'est-à-dire, puis on ne peut pas non plus la manipuler. Il faut pas, il faut la respecter. Enfin, voilà. Comment vous direz, c'est ça.
Moi, je voudrais bien parler de ce problème parce qu'effectivement, il me tient beaucoup à cœur. Et tout à l'heure, Yann parlait des idoles que Abraham enfin, a dû casser les idoles de son père. Mais finalement, il y en a un autre qui a fait à peu près le même geste, c'est Moïse. Il a cassé l'étape de la loi. Est-ce qu'on pourrait considérer que la Torah puisse être considéré comme une idole? Alors il y a un mot qui m'intéresse beaucoup, c'est le mot Temouna. Dans Temouna, il y a le Tav de départ qui signifie la mort. C'est la dernière lettre, c'est la lettre de l'immobilité. Et après, il y a Emouna qui est la croyance, la foi.
La foi, oui.
Donc si on immobilise la foi, on la met sur un livre justement qui ne doit pas bouger, eh bien, ça devient une idole. Et donc, c'est là, il faut la casser, il faut recréer une nouvelle loi qui soit mobile, vivante, comme on dit. Et c'est intéressant, enfin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de comparer les premières tables de la loi et les deuxièmes tables, où je disais que dans la première table, on parlait dans les 10 commandements, du quatrième commandement, où on observe le Shabbat parce que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours et s'est reposé le 6e jour, donc on est sur un commandement d'imitation qui tient que si on prend Dieu. Et la deuxième version où il dit tu feras le Shabbat parce que ton esclave et ta servante ont droit au repos comme toi. Donc il devient une loi sociale qui ne tient pas compte de la notion de foi ou pas et qui est beaucoup plus dans justement la vie de tous les jours.
Je pourrais encore dire quelque chose. Je crains d'être peut-être un tout petit peu hors sujet par rapport à ce que l'on a dit ici au niveau des images, de la parole. Mais la parole, les prophètes ont vraiment beaucoup dit, beaucoup parlé à Israël. C'était à ce moment-là, effectivement, la fiancée de Dieu. C'était beaucoup, beaucoup d'images, de représentation. En fait, à ce Shabbat, c'est-à-dire samedi, là, ce samedi, dans la paracha qu'on étudiait, c'est-à-dire une séquence de la Torah, ça concernait le décès, la mort et l'enterrement de Jacob, Israël. Puisqu'on a toujours dit Jacob, mais on dit aussi Israël, puisqu'il a changé, son nom a été changé au moment de la, on va dire, la lutte avec l'ange, on ne sait pas exactement, mais cette lutte. Il s'est appelé Israël. Et Jacob a demandé à Joseph, son fils, il était alors en Égypte, ils étaient en Égypte, d'aller absolument d'être enterré avec ses ancêtres, ses aïeuls, c'est-à-dire Abraham, Isaac, à la grotte de Marpella, en Canaan, en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que en même temps, on a parlé de Jérémie, chapitre 30, texte 10, en disant, alors, Jérémie disant exactement les paroles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui dit, écris dans un livre toutes les paroles que je te dicte. Des jours viennent, oracle de l'Éternel, où je restaurerai mon peuple, je le ramènerai au pays que j'ai donné à leur père, et ils habiteront, toi mon serviteur Jacob, ne crains rien, ne sois pas alarmé, ô Israël, en secours, je ferai sortir des régions lointaines tous les descendants, tous les exilés. Et Jacob, Israël, reviendra et jouira d'une paix et d'une sérénité que personne ne troublera. Ce qui m'a touchée, c'est pour ça que c'est un tout petit peu hors sujet, mais c'est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une parole aussi ancienne que celle de Jérémie dit que finalement, le peuple de Dieu de cette époque, Israël, sera toujours vivant. Et nous espérons que ce peuple reste vivant encore aujourd'hui, car il est vivant aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que c'est une parole prophétique qui est d'actualité. Je voulais le dire, tout simplement, parole de Jérémie.
Alors les paroles prophétiques perdurent. Ouais. Pour résumer, il y a une sorte d'éternité dans la parole prophétique.
Ah oui. Après, s'il y a d'autres questions, je sais pas. On peut s'arrêter là. Hein.
Eh bien, voilà, je vais. Oui, je vais.
Merci.
Et avant de partir, donc, on va se retrouver en mars, le 12 mars, et ça sera les icônes en question de Solange de Malartic. Voilà. Avec plaisir, Solange. Voilà, et nous, entre-temps, pour information, on est un petit groupe, le conseil d'administration, on en profitera pour se retrouver, nous, en février. Pour préparer déjà le prochain programme de 2025-2026. Donc nous, on aura une réunion de tout le conseil, on a à peu près 9, 12, non, une douzaine de personnes.
Voilà. Oui, s'il y a des idées, ça serait bien.
Ah, alors, et si vous avez des idées, vous pouvez nous en parler, hein, des idées de réflexion pour notre programme. On est tous ensemble, on partage. Travail. Voilà. Bon, eh bien.
Merci bien.
Ouais. Merci. Hein.
Nous nous remercions. Merci. Nous nous remercions.
Voilà, nous nous remercions. Et dans 2 mois, en mars. Voilà.
Ah, c'est dans 2 mois.
Ouais. J'ai une idée.